Oui.
Et en ce moment, la journée d'études du Centre universitaire d'études juives. Et tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur le professeur Branchuy, qui nous a fait l'honneur de participer à nos travaux. Ainsi qu'à Monsieur Messas, directeur de cet établissement. Je voudrais aussi et surtout remercier en votre nom Manitou d'avoir non seulement accepté de nous donner une semaine d'études pleine qui a commencé déjà jeudi à la Sorbonne, mais de nous consacrer toute sa journée du dimanche. Avant de lui passer la parole, je voudrais tout d'abord vous dire que rue Jean Rey, dans le 14e, se tient une journée consacrée aux problèmes posés par les migrations des Juifs du RSS. Et j'ai tenu, en notre nom ici, en journée d'études, à envoyer un télégramme pour marquer notre solidarité et pour leur dire combien nous pensons et nous souhaitons avec force que les Juifs du RSS puissent enfin exercer leur droit tout à fait normal, tout à fait évident, de pouvoir émigrer et de pouvoir eux aussi se rendre dans cette veille de Pessah dans la terre de leurs ancêtres. Je voudrais donc, à la fin de la séance également, si nous en avons le loisir, nous rendre au moins une délégation rue Jean Rey, mais en tout état de cause, je tenais à ce que notre participation soit ainsi affirmée. Je voudrais également donc vous dire, sur le plan du déroulement de cette journée d'études, elle commence maintenant par l'exposé de Manitou, qui sera suivi d'un débat et qui nous conduira jusqu'au déjeuner pris en commun. Ensuite, cet après-midi, deux exposés, le mien tout de suite après déjeuner portant sur sionisme et universalisme d'après les textes de Orod du Rav Kook, puis un exposé de Arié Shapir portant sur marxisme et sionisme universalisme, et enfin la table ronde qui sera présidée par Manitou et qui clôturera cette journée d'études. Je vous remercie et je passe la parole à Manitou. Bien, je vais vous dire brièvement comment je pense bâtir cet exposé introductif de la journée. Bien entendu, des perspectives générales auront à être formulées, de telle sorte que nous ayons un cadre général de nos réflexions, et assez rapidement, je m'en tiendrai au point de vue de l'enseignement de la tradition sur ce problème. J'ai pensé analyser cela en deux parties. D'abord, une partie théorique, basée sur le thème « Particularisme et universalisme d'Israël d'après l'enseignement de la Torah ». J'aurai à vous rappeler ou à mettre en forme de nouveau un certain nombre d'analyses qui sont certainement familières à beaucoup d'entre vous par telle ou telle méthode d'approche, et nous essaierons de trouver un vocabulaire commun qui puisse nous permettre, dans le déroulement de la journée, une confrontation plus exacte, en tout cas du point de vue du vocabulaire, entre les différentes approches méthodologiques de ce problème. Et ce n'est pas par hasard que cette année, nous avons choisi une formulation peut-être un peu plus politique que d'habitude, puisque d'habitude nous nous en tenons à des catégories strictement universitaires, en l'intitulant Particularisme et universalisme de la tradition d'Israël, dans le titre Sionisme et universalisme. Vous avez dû vous frapper, vous avez dû remarquer cela. Je ne sais pas s'il faut dire chéri à nous. Nous verrons d'ailleurs pourquoi les événements nous obligent, au fond, à mettre un peu les points sur les i. Et ceci sera la première partie. Alors nous nous référons au déroulement du récit de l'histoire tel que le commence la Torah, pour arriver à essayer de cerner l'identité d'Israël dans ce problème. Et je vous le dis tout de suite, du point de vue de la méthode, lorsque je dirai Israël, ça signifie à la fois et simultanément l'identité d'Israël telle qu'elle émerge dans l'histoire à partir des Hébreux, donc le peuple, dans toutes ses dimensions, le peuple hébreu, le peuple juif, enfin qu'il est l'héritier du peuple hébreu, et ça veut dire simultanément aussi Israël contemporain. Il y a là un postulat de méthode, qui est bien entendu discutable théoriquement, et nous aurons peut-être à le discuter, mais pour la cohérence du vocabulaire en tout cas, je tenais à vous le préciser. Et en deuxième partie, j'aborderai l'exégèse de base qui concerne le sujet qui nous a été indiqué, c'est-à-dire foi et fidélité d'après la Gada de Pessah, puisque nous nous trouvons à la veille de Pessah. Et pour ceux qui ont participé à la journée de Shabbat hier, vous avez déjà eu, je pense, un certain nombre de questions qui ont été posées hier. On pourra aussi le reprendre d'un certain point de vue aujourd'hui sur un autre postulat de méthode
qui a été formulé par un des participants, je ne sais pas s'il est là. Enfin, s'il n'est pas là, sa question est là. Du diagnostic interprétatif, ou en tout cas descriptif, des événements de notre histoire contemporaine par rapport à l'enseignement qu'en donnent les textes historiques de la Bible. Vous comprenez de quoi je veux parler? Enfin, la question de la légitimité d'avoir à diagnostiquer dans les événements contemporains ce dont la lecture de la Bible nous parle. Et comme vous le voyez, les deux postulats sont très liés. Si effectivement nous sommes Israël, alors les goïms qui nous entourent, avec tous leurs problèmes, et tous nos problèmes réciproques, sont les goïms dont parle la Bible lorsqu'elle décrit l'entourage, l'environnement d'Israël. Si vous voulez, d'une autre manière, si nous sommes Israël dont parle la Bible, et au bénéfice de cette double définition, et le peuple et Médinat Israël en même temps, alors l'Égypte dont parle la Bible, c'est l'Égypte. Du moins l'Égypte, c'est l'Égypte dont parle la Bible, etc., etc., dans l'ensemble du problème, en tout cas, de notre relation avec l'universel humain. Est-ce que c'est bien clair, pas ce ne sont pas seulement des postulats de méthode, vous devinez que ce sont aussi des postulats de doctrine, mais nous essayerons de distinguer les convictions et les connaissances. Enfin, ma charge, et le devoir d'ailleurs de tous les conférenciers aujourd'hui, sera bien entendu de vous laisser deviner les convictions qui sont les nôtres, ça vous les devinez, mais en tout cas, surtout d'essayer de formuler ce problème au niveau des connaissances. Parce que l'expérience montre, et ça va de soi, mais il vaut mieux le dire, l'expérience montre qu'on ne peut pas confronter des convictions. On ne peut confronter que des élucidations de connaissances. Bien entendu, des connaissances ne sont pas basées sur des convictions qui sont gratuites, inefficaces et inopérantes. Il est normal que tout ceci soit animé par des options de certitude. Mais nous essaierons de nous en tenir au niveau de l'échange des idées en tant qu'universitaire, si vous voulez, escalité. Mais ça ne trompe personne, ni vous, ni nous, ni nous tous ensemble. Et nous savons très bien à quel niveau nous nous situons dans ces problèmes. Et alors, pour cet exégèse de base, j'ai choisi le passage classique de la Agada de Pessah, qui parle de la différence de réaction de quatre enfants types. Et vous voyez à quoi je veux faire allusion, et nous essaierons de réidentifier ces quatre positions, dont une, et peut-être toutes à leur manière d'ailleurs, dont une en tout cas, apparaît comme franchement contestataire, c'est du point de vue de la relation de foi et de fidélité avec notre identité, dans le problème particulier de l'universalisme. Si vous l'avez deviné, la position du rachat, mais enfin, il ne faut pas avoir de préjugés, en ce sens que ce sont toujours des typologies collectives qui nous sont décrites, et que l'identification à l'échelle individuelle ressort d'autre part du destin de chacun. Eh bien, j'aborde donc le premier point. Certains d'entre vous ont probablement participé au séminaire d'été de l'été dernier à Jérusalem, au séminaire du QEJ, qui s'intitulait « Israël et les nations ». Est-ce que c'est le cas dans la salle? Oui, moi aussi. C'est toi aussi, oui. Bien, alors vous me mettez un peu à l'aise, donc je n'aurai pas à faire l'effort de me répéter en me renouvelant. Et d'ailleurs, ce thème a été assez important, puisqu'il a fourni par la suite, comme M. Sirad l'a dit à la Sorbonne jeudi soir, il a fourni par la suite le thème du colloque des intellectuels de langue française, francophone, plus exactement, parce que la langue n'était pas tellement française. Le premier choc que j'ai eu en arrivant à Orly cette fois, c'était d'entendre parler français avec l'accent français. Vous allez dire que ça m'a fait un choc. Et alors, le thème qui a été proposé et retenu a été intitulé « Israël dans la conscience des autres ». Nous avons essayé de décrire la représentation que les non-juifs se font de l'identité d'Israël dans trois dimensions, dans la conscience chrétienne, dans la conscience de l'islam et dans la conscience marxiste. Je crois que nous nous trouvons dans une période où il est nécessaire de faire ce bilan du point de vue d'une formulation juive et du point de vue de la subjectivité juive, parce que très souvent nous sommes enfermés dans ce piège d'une sorte de contre-objectivité. On nous impose une soi-disant objectivité qui n'est en réalité qu'une contre-subjectivité. C'est-à-dire qu'on nous impose le point de vue des postulats et des catégories de la conscience goy pour définir le problème des relations entre la conscience juive et le monde extérieur. Alors, il est nécessaire de faire ce rétablissement de postulats et de catégories, purement et simplement, et c'est d'autant plus nécessaire pour nous qui procédons des évidences, en tout cas des méthodes de pensée de la culture occidentale, laquelle culture occidentale, en général, quelles que soient les exceptions, elles existent, a toujours défini le fait juif comme un objet et non pas comme le sujet de sa propre histoire ou de son propre destin, selon les termes qui vous sont familiers au niveau des analyses sociologiques qui parlent de ces problèmes. Mais plus que cela, nous sommes en général des universitaires de type occidental coupés des sources juives. Non pas que nous ne sachions pas lire en hébreu le journal ou les livres, hein, mais nous lisons, même lorsque nous lisons l'hébreu, nous le lisons avec des catégories gréco-latines. Et du point de vue, si vous voulez, de l'intérêt culturel que peut représenter cette double appartenance culturelle, c'est très certainement enrichissant. Mais du point de vue, encore une fois, de notre destin, du destin de notre identité, c'est assez, non seulement délicat, c'est assez catastrophique. Alors, je crois que ce n'est pas par hasard que toutes ces préoccupations tournent finalement autour de ce point de méthode. Qu'est-ce que la conscience juive, elle, dit, et au nom de sa propre tradition, de ce problème qui fait question, et au niveau politique, et au niveau historique, et au niveau idéologique aujourd'hui autour d'Israël, le problème de cette ambiguïté ou ambivalence de particularisme et universalisme dans la conscience du fait et de l'identité d'Israël. Bien, alors je rappelle un certain nombre de données de base. Nous avons essayé de mettre cela en forme. Premièrement, il y a un très long récit historique de la Torah, donc de la Bible, lorsqu'elle entreprend de nous raconter l'histoire de l'humanité à partir de la création et jusqu'au moment important pour nous de la constitution d'Israël comme société, c'est-à-dire la sortie des Juifs. Ça va depuis le début du Sefer Bereshit jusqu'à à peu près le chapitre 10 à 12 de l'Exode. Il y a un très large panorama de la manière dont la Bible se représente l'histoire humaine. Bien entendu, et il faut le noter, à cette manière de raconter l'histoire, à cette lecture de l'histoire, il y a des postulats d'ordre métaphysique et théologique, mais ces postulats, eux aussi, ne sont pas seulement affaires de conviction. Est-on croyant ou n'est-on pas croyant dans le sens de catégorie confessionnelle occidentale? Ce n'est pas seulement affaire de conviction, c'est aussi affaire de connaissance, et il est nécessaire, du moins, une élucidation préalable de ce qui est dit dans ces postulats serait nécessaire. Mais ça nous renvoie quand même, du point de vue des dénominations universitaires et académiques courantes, à des réflexions d'ordre, à des analyses d'ordre théologique, que je laisse provisoirement de côté aujourd'hui. Mais dans tous les cas, la première remarque qui apparaît, c'est que dans ce grand panorama du développement de l'identité humaine, jusqu'au temps des patriarches en tout cas, n'apparaît pas l'entité ou l'identité Israël. Et à partir de ce moment-là, alors nous pouvons déjà commencer à nous dégager de ces faux concepts comme race, nation, religion, faux, je veux dire inadaptés, inappropriés aux choses dont nous parlons. J'emploierai, comme je le fais d'habitude, des périphrases pour essayer de traduire la mentalité hébraïque de ces notions, une manière d'être homme, société, ethnie, groupement humain, mais en tout cas, nous reviendrons sur les problèmes qui se greffent à cette manière, sur cette manière d'être homme. Peut-elle être acquise, peut-elle être perdue, nous aurons peut-être à parler de cela aussi, mais en tout cas, il est important de voir que dans ce premier panorama historique de la Bible, en introduction à la loi, à la Torah qui est donnée comme loi à cette société qui se nommera Israël, à cette manière d'être homme qui en fin de compte est nommée Israël, eh bien, pendant toute la grande première partie de l'histoire de l'humanité, jusqu'au temps des patriarches, il n'y a pas Israël. Sur un point précis, en tout cas, une première remarque importante, sur un point précis qui va éclairer notre sujet, c'est que il y a quand même, dans ce déroulement de l'histoire, dans cette lecture de l'histoire que nous offre la Bible, et surtout dans le livre de la Genèse, il y a deux moments, il y a deux périodes. Il y a un premier moment où on assiste, dans l'atmosphère du récit, à la désignation d'un universalisme concret à l'échelle de l'humanité tout entière. Il y a eu, si vous voulez, un premier temps où l'universalisme, qui est pour nous maintenant les modernes, et les modernes ça veut dire depuis Abraham, qui est pour nous une nostalgie ou un idéal projeté vers l'avenir, je crois d'ailleurs beaucoup plus une nostalgie qu'un idéal pur et simple, parce qu'il me semble que les idéaux efficaces, que les idéaux qui importent, ceux qui sont le moteur de l'histoire, procèdent plus d'une espérance pure et simple, que procède plus d'une mémoire que d'une espérance pure et simple. Nous ne verrions pas la civilisation humaine tout entière polarisée vers cette recherche de la reconstruction de l'unité humaine, de l'universel humain, s'il n'y avait pas une sorte de nostalgie en creux, non pas d'un paradis perdu, mais en tout cas d'une expérience qui a été en fin de compte refoulée dans l'inconscient, qui n'apparaît qu'à la conscience des intellectuels la plupart du temps, ou des hommes de bonne foi en général, des hommes de bonne volonté, mais en tout cas la référence à un « il y a eu, il était une fois, l'humanité était une ». C'est ainsi que la Bible en parle. Jusque à l'époque de la civilisation de Babel, et donc c'est la période tour de Babel, si vous voulez, jusqu'à cette époque-là, la Bible parle de l'humanité comme un ensemble uni, comme un universel concret. Ceux qui lisent les textes, vous savez quel est le verset que je vous cite chaque année, d'ailleurs, lorsque nous parlons de ces choses, qui l'exprime. Et à mon sens, la manière dont la Torah a tenu à exprimer cela est très, non seulement directe, mais très féconde. Elle nous dit que jusqu'au temps de la tour de Babel, l'humanité avait une langue unique. Le fait de dire que l'humanité avait une langue unique, c'est désigner dans l'essentiel l'universel concret. Parce que nous savons que le langage est spécifique l'homme, nous avons étudié ces choses d'ailleurs un peu hier sous un autre biais dans le thème de l'exil de la parole, ce qui était la horrible chose, vous en souvenez, mais c'est le langage qui exprime l'être. Je me souviens encore du Rav Kook, du sourire du Rav Kook, c'est dans cela, c'est dans, je crois, Buffon. Et le style, c'est l'homme, c'est bien Buffon, ça. Oui. Alors, le Rav Kook, avec le sourire dans les yeux qui est habituel aux grands sages, nous disait, mais la vérité, c'est que l'homme, c'est son style. C'est pas seulement que le style est l'homme. L'homme s'exprime dans son style. Enfin, je veux dire, d'une façon générale, vous l'avez compris, c'est le langage qui exprime lorsqu'on parle vraiment, pas lorsqu'on fait semblant, pas lorsqu'on fait du bruit, pas, mais lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on parle vraiment. Alors le langage dit quel est l'être. C'est, le langage, c'est finalement l'extériorisation, dans le sens étymologique de créer, faire exister, c'est-à-dire situer à l'extérieur, l'extériorisation de la vie intérieure, de l'être profond, de l'être intérieur. Lorsque le Tanakh nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole, ça commence à prendre un sens important. Et effectivement, le langage exprime l'être, dévoile l'être. C'est pourquoi on a peur de parler. Vous savez, au fond, on fait semblant de parler. Vous comprenez ce que je veux dire. Je crois qu'il y a là une réaction de défense de la part de la conscience et de l'équivalent de la psychanalyse, on sait pourquoi. On a peur de se trahir. Il y a d'ailleurs toute une introduction à la Gemara de Pesachim sur ce problème. Il suffit, lorsqu'on sait écouter, il suffit d'entendre quelqu'un parler pour savoir qui il est. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle si peu souvent. Enfin, nous sommes dans une civilisation qui fait beaucoup de bruit, mais qui dit peu de choses. Qui dit peu de choses. Ça nous a toujours frappé dans nos études lorsque la Mishnah, la Gemara, avec beaucoup d'humour, nous cite les grands sages de l'Antiquité juive, ce sont nos maîtres d'aujourd'hui, d'ailleurs, ces grands sages de l'Antiquité juive, pour nous dire que Rabbi Untel, des géants, des montagnes, Rabbi Untel a dit trois choses. Ou Rabbi Untel a dit une chose. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons des bibliothèques entières de bavardage sur n'importe quel sujet de la part de nos grands auteurs. Vous comprenez là, le contraste. Il y a là un humour fabuleux. Parce qu'au moins, ils ont dit ces trois choses. Bien. Et voilà donc, il y avait un temps où, il y avait un temps où vraiment l'humanité a connu un universalisme concret. Il faut s'habituer à ce fait que lorsque la Bible raconte l'histoire, c'est pas pour raconter des anecdotes, c'est pas pour nous dire en passant des faits. Le récit n'est pas événementiel. Hein. Le récit est le récit de la constitution de l'identité humaine. C'est un récit de gestation. C'est la description d'une gestation qui va de Adam au Ben Adam, c'est-à-dire de l'homme au fils de l'homme, à la réussite de l'histoire. Et ce n'est pas par hasard que le mot biblique qui veut dire l'histoire en hébreu, c'est le mot de toladot, de toldot. C'est un terme qui signifie les engendrements pour raconter l'histoire, le projet de la Torah, et de raconter les engendrements, c'est-à-dire en langage bergsonien, si vous voulez, les différentes mutations qui doivent mener l'être de l'homme en tant qu'Adam à l'origine, à l'être de l'homme en tant que Be'adam, que Ben-Adam. Et nous savons très bien que le monde n'a pas été créé pour Adam, mais pour le Ben-Adam. C'est ça le grand chidouche, lié de la tradition messianique juive, c'est que le monde n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le fils de l'homme. Et lorsqu'on identifie ce principe, alors on comprend mieux l'histoire. On comprend en tout cas que l'histoire puisse avoir un sens. Toute la prise de conscience de la relation au monde a été, dès l'origine, messianique. C'est une véritable tension messianique. Et j'y reviens souvent parce que c'est très important. Ça vous éclaire la grande différence qu'il y a entre la tradition de pensée des maîtres de la tradition du judaïsme et la philosophie, enfin les postulats de la philosophie. Pour la philosophie, le monde dans lequel nous sommes est le monde de l'homme, alors que pour la tradition messianique, le monde dans lequel nous sommes est un monde embryonnaire qui est le monde du fils de l'homme à engendrer. Et l'histoire s'appelle l'histoire des engendrés. Et en tout cas, à l'étape que je vous... Il faut savoir que lorsque la Torah raconte l'histoire, les détails qu'elle nous donne ne sont pas du tout des détails purement et simplement de l'événement événementiel, mais qu'ils ont une importance dans cette ligne de force générale qui est le projet de raconter cette gestation et cette tentative d'accouchement, littéralement, que nous appelons en termes traditionnels Chevel Mashiach, Chevel Leda, c'est-à-dire véritablement les arts de la mise au monde. Et cela nous renvoie à cette intuition très profonde qui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sépare de l'optique philosophique. C'est pourquoi notre théologie est inadaptable à la formulation philosophique. Vous retrouvez là surtout Judas Lévi, enfin, c'est Judas Lévi qui a mis en forme ce dont je vous parle. C'est cette impression profonde, non pas d'un monde inachevé, mais d'une identité humaine inachevée, d'une identité humaine embryonnaire, en gestation, qui est en quête d'une véritable naissance. Et ça a été vécu par Israël. Bien entendu, au niveau des idées, ces thèmes-là ont pu passer dans d'autres théologies, ou dans d'autres philosophies de l'histoire, ou dans des philosophies de l'histoire, mais ça n'a pas été vraiment vécu à la manière dont Israël a vécu son destin. Mais revenons à ce point, il y avait donc un temps où l'humanité était une. Et cela est exprimé par ce verset qui dit que tout le monde parlait la même langue. Mais la fin du verset indique qu'il n'y avait pas uniformité. Il y avait déjà, ce qui va devenir en catastrophe la diaspora des nations, je dis bien la diaspora des nations qui précède la diaspora d'Israël, et je vais vous en parler, mais, ou de Barim Ahadim. De Barim Ahadim, cela signifie que chaque famille humaine avait son propre langage. Lorsque la Gemara parle de ce verset, elle donne deux indications. Vahi kolare safa ahat. Et toute la terre était langue unique. La Gemara dit c'était la langue de l'unique du monde, donc de Dieu, du Créateur, ou de Barim Achadim, Shirim Lachon. Et aussi les langages particuliers, les 70 langues. Voilà, je vous décris donc le pshat de la Gemara de ce verset. Simultanément, se trouvait cet état de fait, je ne dis pas idéal, puisqu'il a échoué, mais. Et nous verrons pourquoi. Mais se trouvait cet état de fait d'un universalisme concret qui n'engloutissait pas, qui n'annulait pas les particularismes à l'intérieur de cette expression biblique, les familles de la terre. Mishpechot Adam. Les familles de la terre étaient vraiment des familles d'un seul peuple, l'humanité, mais chaque famille avait son visage, avait son identité spécifique, la richesse de sa qualité propre. De sa différence spécifique, comme diraient les logiciens. Et puis, vous savez ce qui est arrivé au temps de la tour de Babel ? Cette unité qui faisait que la multiplicité était une richesse, cette unité a disparu. Elle a disparu, ça nous renvoie à une analyse théologique d'autre part, mais enfin, je décris le processus du récit. Elle a disparu parce que l'humanité s'est révoltée contre le principe de l'unique du monde, la langue unique a disparu. Elle s'est occultée, elle est devenue le Lachon HaKodesh des Hébreux, comme nous verrons plus tard. Mais cette langue unique s'est occultée, a disparu, elle est montée en haut, elle est rentrée dedans, si vous voulez, et n'est restée que la disparité des langages particuliers, ce qui fait que les hommes ne se sont pas compris entre eux. C'est ainsi qu'il faut entendre ce récit. Et donc, nous partons maintenant, très littéralement, du temps de la tour de Babel, l'unité humaine a éclaté. L'unité humaine a éclaté, cette réussite de l'universel humain, qui aurait pu être le commencement de l'engendrement, de la réussite de l'engendrement messianique, cela a éclaté, cela a échoué, il est resté la diaspora bégoïde. Les 70 nations de base dont plus que symboliquement la Bible parle, les 70 langues, chaque famille de la terre selon sa langue, selon son pays, selon sa nation, etc. Vous retrouvez le chapitre 11-12 de la Genèse. Et dans la description de cette diaspora de Goïm, il n'y a pas Israël. Voilà donc une première remarque qui me semble très importante. Et puis, le temps passe. L'histoire se développe. Dieu attend. Il attend quoi? Il attend qu'une manière d'être homme puisse surgir de ce reste, de ces déchets d'universel humain et tenter de commencer à refaire l'unité de l'identité humaine. Et c'est là qu'apparaît l'identité Israël. Alors vous voyez que l'identité Israël ne peut pas être renvoyée à un universalisme de type théorique et utopique, hein, ni non plus à un particularisme d'une parmi les nations. Je voudrais quand même bien décrire ce point. La Bible ne parle pas d'Israël qui va surgir avec les patriarches, et Israël se constitue au terme d'une sélection, d'un birour. C'est pas tout Abraham, c'est pas tout Isaac, c'est en fait comme Jacob. Mais cet Israël, c'est Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et c'est une identité bien particulière. Il y a un birour, une sélection qui se produit, comme vous le savez, et c'est là qu'apparaissent les rivalités à Israël, du côté de l'islam et du côté de la chrétienté, qui sont deux para-Israël, pseudo-Israël, ou en tout cas approximation d'Israël, mais qui apparaît, semble-t-il, inéluctablement dans ce travail de birou, de sélection à l'intérieur de l'identité d'Abraham, et qui vont d'un côté et de l'autre nous accompagner dans toute notre histoire, à la fois comme relais avec la dispersion des nations, et surtout, malheureusement, comme rivalité à Israël. La descendance d'Ismaël d'un côté, et comme vous le savez, elle a donné l'islam, la descendance d'Ésaü d'autre part, et comme vous le savez, elle a donné la chrétienté, sont en quelque sorte comme deux dimensions extérieures de l'identité Israël, de clipot, comme dit le langage de la Kabbalah, deux écorces d'un fruit qui se cherche, dont la maturité se cherche à l'intérieur, et qui se présentent comme deux rivales de la tentative Israël que je vais tenter de vous décrire. Mais il est bien évident que dans le récit de la Torah, et c'est très important à mettre en évidence de façon très claire, jamais on ne parle d'Israël comme un génie humain parmi les autres. C'est tout autre chose. C'est un génie humain qui apparaît au second degré de l'intérieur de l'éclatement de l'unité humaine et dont la manière d'être, alors disons en termes de finalisme, dont la vocation, si vous voulez, ou en termes de causalisme, enfin peu importe, dont la manière d'être consiste à tenter de refaire l'unité humaine. Ce particularisme-là, c'est l'universalisme lui-même. Est-ce que c'est bien clair? Voilà donc la première, si vous voulez, la première approche du problème. Je voudrais être assuré de ce que j'ai pu me faire comprendre, hein? C'est-à-dire que, dès l'origine, Israël apparaît avec, première étape, Abraham, puis sélection, Ishmaël d'un côté, Isaac de l'autre. Deuxième étape, Isaac, mais sélection de nouveau, Ésaü d'un côté, Jacob de l'autre. En fin de compte, au bout de sa nuit, Jacob est nommé Israël. C'est Jacob qui est Israël et c'est irréversible. Mais ce Jacob va être accompagné dans son histoire par un cousin qui s'appelle Ishmaël, par un faux frère qui s'appelle Ésaü, et qui sont comme des parents Israël, je dis bien, puisqu'ils ont réinvesti à leur manière l'identité, le génie hébraïque, Israël, voilà. Dans des registres différents. Si vous voulez, nous en parlerons aussi. Je crois que c'est un autre problème, mais je tenais à le signaler. La rivalité de l'islam à Israël est d'une autre sorte que la rivalité de la chrétienté à Israël. Je voulais, pour reprendre une formule qui me semble assez récapitulative, la rivalité entre Ésaü, c'est-à-dire la chrétienté et Israël, elle se passe dans le ciel. On nous dispute le ciel. La rivalité entre Ishmaël et Isaac, entre Ishmaël et Israël, se passe sur la terre. On nous dispute la terre. Alors, où nous allons nous situer? Alors, si j'osais, je citerai Bergson, qui a compris, peut-être parce que d'origine juive, que la demeure de l'homme, c'était l'horizon. Ni la terre, ni le ciel. Et remarquez encore une fois, cette phrase est très jolie. Cette phrase est très jolie. Mais nous l'avons vécue, alors que pour les autres, c'est une phrase. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, en tout cas, revenons à notre problème. Et voilà que l'identité Israël apparaît, mais encore une fois, pas comme une parmi les nations, puisqu'elle est la nation unique, Goy Echad. C'est pas une nation parmi les autres, c'est la nation par excellence. Et c'est pourquoi, d'emblée, l'intuition hébraïque, et elle se développe chez les prophètes surtout, mais elle est en germe au niveau de la Torah, au niveau du récit de la Torah, c'est que s'il y a une nation humaine, c'est ça que Dieu et les hommes appellent Israël. Dieu l'appelle Dieu de son côté, le Dieu de la Bible, avec, comment dire, la relation qu'un père a pour son fils, alors que les autres le dénomment avec la relation qu'un faux frère a pour son frère. Et alors, nous sommes le frère aîné de toutes les crises de croissance. Enfin, chaque fois qu'il y a un adolescent quelque part qui commence à devenir le frère d'Israël, alors là, il faudrait être psychiatre pour vous décrire ce qui se passe. Enfin, vous comprenez, le genre de conflit, de rivalité très, 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 très compliqué, qui se greffe sur ce frère aîné martyrisé qui se donne Israël. Et avec en particulier deux de nos, j'allais dire, co-Israël à la manière de Hitler, celui-là, on l'attend au tournant, en tout cas, deux de nos co-abrahamiques, avec qui nous avons un problème particulier à régler. Ce n'est pas n'importe quel ensemble humain, c'est Goïm-là. Revenons donc, en tout cas, à notre problème. Lorsque la Torah parle d'Israël, on ne peut plus ramener cela à ces concepts universalisme, particularisme, nation, religion, etc. Ça ne marche plus, c'est tout à fait autre chose. C'est à titre de l'humanité tout entière, un rassemblement d'âmes, un rassemblement d'identités qui a pour objet, et cela nous le vivons, que nous soyons lucides ou pas, que nous soyons consentants ou pas, c'est notre manière d'être, qui a pour objet de tenter de refaire l'unité humaine perdue à Babel. C'est là la clé de la cohérence biblique. Voilà ce gros plan de ce qui s'est passé à Babel, et de là, et d'ailleurs de cet endroit-là, de la Mésopotamie elle-même, va surgir en fin de compte quelqu'un qui va entreprendre cette grande marche de l'histoire, qui veut essayer de récapituler l'identité humaine dans cette identité qui se nomme Israël. Et en particulier, cette analyse, comme vous le savez, nous permet de mieux comprendre cette chose assez exceptionnelle, puisqu'au fond c'est le seul cas de la diaspora des Juifs. Mais la diaspora des Juifs correspond à la diaspora des Goïm. Il s'inscrit dans la diaspora, dans l'identité d'Israël et dans son destin d'avoir à être indexé, samoud, comme on dit en hébreu, à la diaspora des Goïm. Mais j'insiste, ne croyez pas que ce soit un paradoxe. Le phénomène diaspora, c'est le phénomène des Goïm, c'est pas le nôtre. Et c'est parce que nous sommes le peuple du salut, comme diraient les chrétiens, que nous avons pris en charge la diaspora des Goïm, mais même ça, on ne nous a pas laissé faire. Et voilà comment ça se passe. C'est qu'effectivement, déjà au niveau des patriarches, au niveau des commencements, alors il se dévoile que, inévitablement, Israël sera en diaspora tout le temps qu'il faudra dans l'économie du projet du Créateur pour Israël. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Si nous étions plus méritants, les prophètes nous le disent, et Moïse l'avait déjà dit, si nous étions plus méritants, ce phénomène de diaspora se serait fait dans la gloire. Bechavod, ou Tifaret. Voilà. Si nous ne sommes pas méritants, alors ça se fait dans l'oppression. Ça se fait dans la galoute, dans le sens péjoratif du terme. Mais dans tous les cas, si Israël est Israël, il devait, d'une manière ou d'une autre, être indexé à l'éclatement de l'unité humaine, de telle sorte de la recueillir, d'en recueillir les morceaux, d'en recueillir les brisures, comme disent les kabbalistes, et de les ramener avec lui dans son retour à Jérusalem, et de les réunifier dans son retour à Jérusalem. Et c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons fait. L'être hébraïque et Israël de l'origine a éclaté en autant de communautés de l'exil qu'il y a eu de civilisations. Qu'il y a eu de civilisations avec lesquelles, en tout cas, un relais en vue de l'unité pouvait être accroché, pouvait être réalisé. Et vous comprenez bien comment, à l'échelle individuelle, c'est indiagnosticable. Je ne sais pas comment dire. À l'échelle individuelle, on ne se rend pas compte que c'est ça. À l'échelle individuelle, chacun a les raisons de ses voyages. Mais, comme je disais souvent, mais on ne savait pas que la maison d'Israël, c'était une agence de voyage. Sauf ça s'appelait l'agence juive. Mais c'est effectivement ça qui est arrivé. Je vous donnerai un petit exemple tel que nous le raconte la Bible dans l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph tête de pont envoyée par Jacob à la suite d'une stratégie où Jacob a envoyé Joseph. Il savait très bien ce qu'il allait lui arriver. Lorsqu'on lit la Bible à un niveau de lecture, purement et simplement, enfin quand on balbutie, mais lorsqu'on lit, alors on voit ce qui se passe. Lorsqu'on Joseph, tête de pont, devient ce que le juif devient lorsqu'il joue son rôle. La plupart du temps à son esprit défendant ou à son corps défendant, le premier ministre, il devient le Joseph de l'Égypte. Voilà. Et de ces Josephs-là, nous en avons eu des quantités plus ou moins authentiques, plus ou moins cachères. La tradition a voulu nous prévenir qu'il y en avait un qui était tzadik, c'était celui-là, Yosef Hatzadik. C'était pour nous dire que les autres, c'est pas tellement sûr. Mais là, en tout cas, là, et lorsque ses frères arrivent, alors Joseph leur dit, ah ça y est, vous êtes arrivé. Bon, alors on va passer aux choses sérieuses. Vous savez ce que vous avez à faire avec les bergers. Pourquoi les bergers? Ben oui, il y a des troupeaux. Mais vous comprenez que tout ça doit être, non, je ne veux pas dire décrypté, mais lu, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque la Bible cherche par où passe la figure de proue de cette histoire Israël, alors la Bible cherche un test. Elle cherche où est le berger. C'est-à-dire que Moïse a passé le test du berger. David a passé le test du berger, les patriarches étaient des bergers, mais il s'agit du berger, le premier berger étant Abel, et que Caïn a empêché par Caïn de faire son travail. Alors effectivement, il y a un texte, comme d'habitude, plein d'humour, hein, Joseph qui dit à ses frères, « Là, vous êtes arrivés, messieurs les bergers. Alors, Bruchim Abaim, il faut entrer dans la bergerie de l'Égypte pour faire le travail. » Je dis, « Non, non, pas du tout. Nous sommes des commerçants. Hein. » Vous lirez les dialogues. Alors Joseph, il va un peu plus loin, il dit, comment vous êtes des commerçants? Mais vous êtes venus voir la nudité du pays. Enfin, c'est écrit comme ça. Batem, Nirot, Erva, Tahare. C'est écrit comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, voir la nudité du pays? Oui, le pays, dans ce pays-là, l'identité humaine est de nouveau nue, comme elle était après la faute du premier homme. Alors vous êtes venus recouvrir la nudité du pays. Ça veut dire leur enseigner la morale. Enfin, je schématise le raisonnement. Alors les frères, comment nous enseigner la morale? Non, nous sommes des commerçants, nous sommes venus faire des affaires de blé. Ils ont fait, c'était aussi pour ça, on fait des affaires de blé, bien sûr. Il fallait, là où le blé pousse, aider à le faire pousser, à l'engranger, à faire des gerbes, d'ailleurs Joseph leur avait prophétisé dans son rêve, et nous sommes les gens qui faisons les gerbes, là où le blé pousse. Et vous saurez que c'est là où est la gerbe, qu'il faut venir faire les gerbes. Enfin, c'était le rêve de Joseph, gerber les gerbes, comme nous disait M. Gordon. Et les, avec une espèce de réticence, de pseudo-réticence. Il se passe comme si, dans ce dialogue, il se passe dans le palais du Pharaon, les frères de Joseph tendaient à dire à Joseph, dis pas ça trop fort, pas, on va nous accuser de double appartenance. Des protocoles de sage-justice. Alors là, le dialogue qui se passe entre eux. Et il leur dit, vous êtes venus faire votre travail, et faites votre travail. Mais effectivement, dans tous nos voyages, alors vous avez toutes ces thèses, je ne sais pas si elles ont encore été faites, ces thèses, enfin je suppose que si des sociologues faisaient des thèses pour expliquer les pérégrinations des juifs à travers leur voyage, eh bien ils diraient que c'est le souci économique qui a poussé telle communauté à quitter, je ne sais pas quoi, mais l'Europe centrale pour aller en Amérique du Nord, ou l'Europe médiévale pour aller en Amérique du Sud. Des histoires de ce genre. Hein. Alors, bien sûr, tout ça est aussi vrai. Ça c'est les véhicules, la carte de voyage, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce qui se passe là-dedans, c'est l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire prendre en charge la diaspora des nations, de telle sorte d'en recueillir, encore une fois, les copeaux, les clipotes, mais les horotes qu'il y a dans les clipotes, ça veut dire les valeurs, et de s'en imprégner, de les recevoir, et de les sanctifier à travers l'identité Israël, de telle sorte de les unifier dans l'identité messianique, qui maintenant, et aujourd'hui, s'appelle sionisme. Et en ce sens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme, qui est l'accomplissement en termes théologiques de ce problème particularisme, universalisme, tel que la Torah le rappelle. Alors vous comprenez pourquoi il y a un tel haut le cœur de l'humanité tout entière qui est en train de s'apercevoir. Chacun à sa manière, et du point de vue des grands ensembles culturels et idéologiques qui étaient porteurs de l'espérance humaine, la chrétienté, l'islam, le marxisme, tout ce qui va avec, hein, et cette espèce de haut-le-cœur vis-à-vis du phénomène en train de s'accomplir, et l'ambiguïté de tous nos beaux-pères et de tous nos cousins, parce que nous avons été le Jacob de tous les Laban, nous avons été, etc., le Moïse de tous les Jéthros, tout ce que vous voudrez. Alors, cette espèce de nouveau, la Bible est en train de se faire dans les journaux, de nouveau la même histoire, exactement comme elle est racontée dans la Bible. Et nous en sommes à ce stade-là. Et dans ce problème, c'est là que nous arrivons au deuxième point, dans ce problème, ce dont je voudrais surtout parler en deuxième point, c'est la réaction des enfants d'Israël, en prenant les choses au sens étymologique. Parle aux enfants d'Israël, et la Haggadah nous dit, la Torah a parlé pour quatre sortes d'enfants en Israël. Voilà donc le deuxième. Alors vous savez que c'est ce passage, Kenege, d'Avraham, Avanim, Libera Torah, et le mot de Kenege est déjà serait à expliquer, Kenege, dans une relation qui, a priori, n'est pas élucidée, et qui pourrait se trouver être une relation d'agressivité, en fait une relation de tension, Kenege, tu vois. C'est comme c'est le terme qu'emploie la Torah pour raconter, pour établir la première relation d'altérité, comme disent les philosophes, qui est le mariage. Ezer Kenegedo. Vous savez que la femme est définie par rapport à son mari comme Ezer Kenegedo, et la Gemara, le Midrash, a posé la question de savoir pourquoi c'est ainsi dit que la femme serait une aide. Kenegedo, ça veut dire vis-à-vis, mais dans le sens de contre, Neged. Et la Gemara dit, Inzaka Ezer Veimlo Kenegedo. Si l'homme mérite, alors elle est une aide, il s'agit de la femme, pour tous ceux qui sont mariés ou en instance de mariage, prêtez attention à ce problème. C'est la relation d'altérité fondamentale. Alors, le problème moral commence là. Le problème de la relation avec autrui commence là. D'après la Bible, avant la relation du frère et du frère, hein, qui devient académique par rapport à la relation entre le mari et sa femme. Alors si cette identité humaine qui fait secousse mérite, alors elle est Ezer, elle est une aide, et sinon elle est Kenegdo, elle est contre. M. Gordin traduisait que la femme était le contre-à-contre. Et Rachik, ça c'est le pshat habituel. Voilà que si il mérite, elle l'aide. S'il ne mérite pas, elle est contre lui. Bien. Mais Rachik nous fait lire cette Gemara de façon plus profonde. S'il mérite, elle est imzaka, ezer, elle est une aide. Veimla, s'il ne mérite pas, kenegdo lehilahem. Elle est avec lui pour lutter contre. Ça veut dire, s'il mérite, elle l'aide. S'il ne mérite pas, alors il faut se battre. Alors elle l'aide à se battre. Ça c'est vache. Kenegdo lehilahem. Je crois que ça vous permettra de dissoudre peut-être des malentendus conjugués. Bon, alors revenons maintenant à notre problème. Effectivement, nous voyons que la Torah, dès le temps de la sortie d'Égypte, a prévu que l'enfant, que les enfants interrogeraient. Le verset, nous ne sommes pas en cours d'exégèse, d'ailleurs, c'est dommage, il faudrait que nous arrivions au PLA à pouvoir avoir des journées d'études d'exégèse, aussi nombreux que vous êtes, Kenirbu, et là-bas, hein, c'est provisoire, c'est pas ça. Comme je disais à M. Sirac, j'en vois qui manquent, mais je sais qu'ils sont là-bas. Et la Torah a prévu qu'il était inévitable que, enfin c'est une parenthèse, vous vous rendez compte à quel point l'impression qu'on peut avoir à Jérusalem, dans les cours du QH là-bas, lorsque je revois une salle française qui semble avoir été transportée purement et simplement de Paris à Jérusalem. Il y a du Châteaubriand là-dessus. Et alors la Torah prévoit effectivement que l'enfant interrogera et qu'il est normal que cela. Ce que je veux indiquer ici il me semble assez important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à s'étonner de ce que, nous verrons ensuite les quatre sortes d'enfants, mais il n'y a pas à s'étonner de ce que la Torah est prévue que, inévitablement, l'enfant interrogera. Qui ishalcha bincha mahar lemor. La Torah a prévu que dès la génération qui suit celle de la sortie d'Égypte, il était inévitable que les membres de la société d'Israël demandent à leurs parents, demandent à leurs à leurs origines, qu'on leur explique le sens de leur destin. Parce que seule la génération qui est sortie d'Égypte a vécu et compris et diagnostiqué et identifié ce dont il s'agit. Mais dès que on passe à la génération suivante, alors on ne sait plus, je vous disais à la Sorbonne jeudi soir, cette connaissance qui est véhiculée dans la tradition, c'est une connaissance qui procède de la mémoire avant de procéder de l'analyse théorique. C'était le thème savoir et mémoire. Vous vous rappelez, l'objet de l'étude pour nous, c'est de transformer.